Alors, j'ai travaillé à l'ONU pendant 31 ans. Au début, j'étais dans un service de presse, c'était plus des communiqués de presse, mais ensuite, pour la radio en tant que telle, j'ai commencé 7 ans après. C'était donc un service qui était en train d'être réformé à l'époque parce qu'il y avait une radio qui a été créée en 46, 1946, juste après la création de l'ONU. Et là, elle se cherchait cette radio. On était en train de relancer, c'est pour ça qu'ils étoffaient les équipes et que je suis arrivé. Une radio qui permettrait de faire des journaux quotidiens, ce qui n'existait plus depuis très longtemps. Et j'y ai travaillé en gros pendant à peu près quoi, 25 ans, 24 ans.
Comment ça a changé, comment ça a évolué à 25 ans?
En 25 ans, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a commencé comme beaucoup avec les bandes, avec les reels, comme on dit en anglais, avec des bandes magnétiques qu'on utilisait, qui étaient très lourdes d'utilisation. Lorsqu'il y en avait une qui arrivait de Genève, chaque unité se précipitait au studio pour essayer de la récupérer. C'était comme un match de rugby, il fallait attraper un peu la bande, donc. Et ensuite, petit à petit, ça s'est numérisé, comme on l'a vu, ça s'est digitalisé. Et donc, on a eu accès avec le développement de l'informatique et Internet et tout le reste, à beaucoup de sources d'informations, et on est passé d'une radio un peu classique. On a envoyé aux autres radios partenaires, pour nous c'était surtout l'Afrique et un peu l'Europe et l'Amérique du Nord, notamment Canada et Haïti. Et donc c'était une radio qui est devenue petit à petit productrice de podcasts, productrice, comme on connaît les produits aujourd'hui, d'éléments plus longs, d'éléments magazines, toujours en gardant le journal quotidien de 15 minutes, qui a ensuite été réduit petit à petit. Et aujourd'hui, il reste encore un petit bulletin, mais on s'est orienté vraiment vers du multimédia. Donc la radio, elle était l'ossature d'une unité multimédia qui aujourd'hui donc fait des vidéos, fait recours bien sûr aux médias sociaux, il fait toujours un peu de radio et fait du texte.
Quels souvenirs avez-vous? Peut-être les moments les plus remarquables que vous gardez toujours en souvenir.
Il y a deux types d'événements qui marquent. Ce sont des rencontres, déjà, quand on croise dans les couloirs, et parfois on arrive à les interviewer, mais pas tous, des gens comme le pape Mohamed Ali ou Mandela. Eux, je les ai croisés, je ne les ai pas interviewés, mais nous, on croisait plus des présidents africains, des personnalités, des intellectuels. Je pense par exemple à Daniela Ferrière, qui est connu dans le monde francophone, qui est académicien, il est originaire d'Haïti. On croisait pas mal de personnalités, d'hommes politiques, Simone Veil pour les Français, qui est assez connu. Je ne les ai pas tous en tête, mais beaucoup d'intellectuels aussi qui viennent soutenir la cause des Nations Unies. Puis de l'autre côté, il y a les voyages officiels et les voyages en Afrique, notamment avec le secrétaire général, où là, on est allé directement voir le colonel Kadhafi, voir des présidents, le président tchadien, Idriss Déby, voir le président El-Béchir du Soudan, enfin toute une série de dirigeants qui à l'époque étaient vraiment en poste et des maillons clés de la politique africaine et internationale. Et c'est vrai que là, on a vu aussi des moments forts lorsqu'on voit des enfants soldats qui essaient d'être réintégrés en Sierra Leone, ou on voit des accords de paix qui sont signés à l'époque entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Par exemple, la Coupe du Monde de football. Enfin, j'ai plusieurs événements qui me viennent à l'esprit. Ouais.
Vous avez travaillé à l'équipe multinationale, internationale. Est-ce que c'est difficile?
Non, ce n'est pas difficile parce que justement, il y a un brassage d'abord au sein des francophones. On était donc des Européens, des Africains, Haïti. On a eu plusieurs personnes qui venaient de différents endroits de cette francophonie qui représente bon an, mal an 75 États. Et ensuite, il y avait ce brassage. Nous, par exemple, justement, c'était cocasse parce qu'on était dans une salle de presse et nos voisins d'un côté, c'était les Russes, donc les Russes russophones. Hein, donc, il y avait des gens de la Russie, mais aussi de l'Ukraine, également, donc des autres républiques, je pense, anciennement soviétiques. Et de la même façon, de l'autre côté, on avait les lusophones, les portugais. Donc, on était sans arrêt entre ces musiques. On attrapait des mots comme ça, Dobra Utra, ou pour les Russes, ou obrigado, ou etc. pour les Portugais. Et donc, il y avait des Portugais qui venaient du Mozambique, d'autres qui venaient du Portugal, d'autres du Brésil. Et il y avait toutes les langues. On avait à un moment donné 8 langues au départ. Ça s'est étoffé aussi avec l'hindi, avec d'autres langues. Et donc, c'est ce brassage culturel avec des gens qui viennent d'univers différents qui non seulement ne rend pas difficile, mais au contraire, moi, je trouve, ça montre les approches qu'il peut y avoir par rapport à un même événement, sachant qu'il y a des événements en Afrique qui n'intéressent pas particulièrement certaines unités linguistiques et qui, d'autres, au contraire, les passionnent. Donc, il y a des fois des petites différences régionales, on va dire.
Vous avez mentionné que la radio est transformée en service multimédia plutôt, que maintenant c'est un portail multimédia. Mais on parle à l'occasion de la journée de la radio. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la radio aujourd'hui?
Je pense qu'il y a un mythe sur la radio qui va disparaître et la radio qui est morte depuis des années. On enterre la radio dans de nombreuses administrations. Même à l'ONU, il y a eu à un moment donné une tentation de le faire. Et puis, on s'est aperçu qu'il faut quand même pour, par exemple, des médias sociaux, il faut un support, il faut des podcasts et donc il faut produire du contenu. Donc, si vous n'avez pas de son, si vous n'avez pas l'interview d'un chef de bataillon des casques bleus en République centrafricaine, vous aurez un texte, mais vous n'aurez pas sa voix, vous n'aurez pas la force que représente la radio. La radio, c'est en plus quelque chose qu'on peut écouter en faisant d'autres activités, en conduisant, en lavant la vaisselle, en repassant, en faisant du bricolage. C'est la seule radio où on peut faire autre chose. Quand vous lisez un journal, vous le lisez. Quand vous regardez la télévision, vous regardez la télévision. La radio, elle a cette chance-là d'être très, très souple. En plus, la radio, elle a une capacité d'intervenir en cas de crise. Je parlais d'Haïti tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en 2010 en Haïti, tout était coupé, les réseaux étaient complètement supprimés, mais la radio a permis de communiquer et d'aider à mettre en place les secours d'urgence et également l'aide humanitaire. Donc, elle a évolué, cette radio, mais elle est loin d'être morte et je pense qu'au contraire, elle s'adapte. Les podcasts, c'est incroyable. Vous consommez à la carte ce que vous voulez, quand vous voulez. Moi, j'écoute beaucoup les radios francophones, j'écoute un peu la BBC aussi en anglais et je pense que c'est une force d'avoir ces programmes disponibles. Vous allez marcher, vous mettez votre Walkman, vous mettez vos petits écouteurs aujourd'hui miniaturisés, c'est incroyable. C'est une force très importante.
Notre thématique de cette année, c'est le rôle de la radio dans le fake news, la radio comme la ressource fiable de l'information. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la radio reste toujours une source fiable dans l'époque de fausses infos?
Elle doit contribuer à lutter contre les fausses informations, les infox, comme on dit en français. Et c'est vrai que c'est terrible de voir qu'aujourd'hui, il y a une telle diffusion par l'Internet et par tous les médias de fausses nouvelles qu'il faut, y compris avec la radio, avec aussi les journaux classiques, avec la télévision, avec tous les médias sociaux et autres, lutter contre ce fléau qui est un vrai cancer. Hein. C'est vraiment une plaie. Chacun va chercher sa vérité aujourd'hui et si ça correspond, ben voilà. Alors que la radio, comme les autres, doivent vérifier l'information, corroborer, croiser. Et ensuite, il faut qu'on contribue, nous aussi, à dire la vérité sur la COVID-19, la vérité sur ce qui se passe par rapport à un conflit entre deux pays, la vérité sur les violences faites aux femmes. Il y a toute une série de thèmes où on peut vraiment montrer, prouver que voilà, la réalité, elle est comme ça. Il y a un cyclone à Madagascar. La situation était déjà très, très difficile au niveau alimentaire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et là, avec des témoignages, en appelant des gens sur le terrain, un simple coup de téléphone, on fait de la radio. Hein. Et ça permet de, ou avec Zoom aujourd'hui ou d'autres systèmes, on peut rapidement vérifier et plus les dépêches d'agence, on croise tout ça et voilà. Donc il faut lutter, c'est un fléau. Les fake news, c'est quelque chose qu'il faut montrer, il faut prouver, il ne faut jamais arrêter.
Quel est l'avenir de la radio, à votre avis?
J'ai l'impression qu'elle va résister assez longtemps. J'ai pu faire une étude en relations internationales avec une fac en France il y a quelques années et j'ai montré que justement, il y avait deux types de radio aux Nations Unies. Nous, on avait la radio classique dont j'ai parlé. Et puis, il y a aussi la radio des opérations de maintien de la paix. Depuis, on va dire, une trentaine d'années, il y a eu une trentaine, justement, de radios de maintien de la paix. Et ça, sur le terrain, c'est très, très important d'avoir des radios qui parlent. Mais alors, puisqu'on parle de l'avenir, il faut parler aussi avec les voix des personnes, avec aussi les langues locales. Donc, c'est bien de parler dans les langues officielles des Nations Unies, le russe, le français, l'anglais, etc. Mais il faut aussi parler dans les langues locales, si on parle en Afrique, par exemple, Lingala, le Kiswahili et autres, et le Wolof. Et ça, c'est très important de se mettre à la portée des gens, de donner la parole donc aux citoyennes de la rue. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense que l'avenir de la radio, il est assuré. Après, il faudra voir quel support, mais peut-être qu'on verra d'autres supports être réduits. Quand la télévision a été créée, où on a dit que la radio allait disparaître, ça n'a pas été le cas. Quand les médias sociaux sont arrivés, ça a été un peu la même chose. Ben non, on s'aperçoit que la radio est toujours là. Donc, alors, bien sûr, moi, je suis un peu un militant de la radio et je lui souhaite longue vie, mais je crois quand même qu'elle a un avenir. J'ai toujours trouvé cocasse qu'on fête la journée de la radio la veille de la Saint-Valentin. Je trouve que c'est très marrant d'avoir le 13, la journée de la radio, et le 14, la Saint-Valentin. La radio, c'est quelque chose qui est fait pour les autres, c'est quelque chose qui est généreux. C'est un acte d'amour, donc moi, je pense que la radio, il faut la poursuivre, il faut continuer, et je pense qu'elle a, une fois de plus, un avenir certain, pour ne pas dire un grand avenir. Oui.